chronique de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Heureuse chronique que celle d'aujourd'hui, puisqu'elle fête, après 2 ans de travaux, la nouvelle installation des impressionnistes et l'ouverture du pavillon Hamon au nouveau musée d'Orsay. Nouveau musée d'Orsay, c'est peut-être un paradoxe, mais le titre de cette chronique aujourd'hui est aussi paradoxal, puisque je dépasserai largement le cadre d'une chronique. Il ne s'agit pas d'une exposition, mais d'un musée, et d'autre part d'une œuvre, puisqu'il ne s'agit pas d'une œuvre, mais de tous les tableaux importants faits en France entre 1850 et 1900. Donc, un événement et une merveilleuse surprise, car depuis qu'ils ont quitté le Jeu de Paume, ces tableaux n'avaient rien trouvé de facile au Palais d'Orsay, au dernier étage, rien à leur mesure. Et les différents conservateurs qui se sont succédés, Jean Genguer, Françoise Cachin, Henri Loirette, Serge Lemoine, s'en plaignaient beaucoup, et seul, finalement, Guy Cocheval a pu trouver les moyens de les réaliser. Alors cette redécouverte, ce nouveau regard de ces tableaux qui nous regardent, elle est due à 2 transformations, celle de l'éclairage et la couleur des cimaises. Ces 2 transformations sont dues à Jean-Michel Villemotte, qu'il faut beaucoup féliciter. Alors, les cimaises, cette fois-ci une double tonalité sombre, presque noire, qui mettent en valeur dans tout le parcours de la galerie des impressionnistes le jeu des couleurs et qui est précédé, c'est assez intéressant, dans le hall de cette galerie, avec une vue sur Paris, avec une vue sur le mécanisme d'une des horloges, d'une autre variante foncée teintée de violette. Voilà le premier élément de cette transformation. Le deuxième élément, c'est l'éclairage. D'abord, éclairage du plafond, avec le jour, quand il y a la lumière du jour, la lumière zénitale qui laisse voir par transparence le ciel, et puis latéralement, une salle sur 2, un peu bas, de l'autre côté de l'avenue, eh bien on voit et la Seine, et surtout une vue transversale de toute la rive droite parisienne. Donc, double métamorphose des tons et de la lumière. Alors les tableaux sont transformés. Et en particulier, le fameux noir de Claude Manet, différent de celui des cimaises, apparaît cette fois-ci comme une vraie couleur, comme il l'a toujours dit, une couleur dans sa nouvelle intensité, sa variété. Elle entoure, bien sûr, les mèches de la chevelure et le regard de Berthe Morisot, où elle le cache derrière un éventail. Elle fait apparaître, c'est essentiel, la pièce du fond du tableau intitulé « Le balcon », qu'on ne voyait que du noir. Maintenant, derrière ce noir, à travers la transparence de ce noir, on voit toute une pièce et derrière les personnages qui semblent retenus par la balustrade verte. Et on comprend maintenant l'étonnement de ces 3 personnages devant le nouvel espace qu'ils découvrent entre l'intérieur et l'extérieur, un nouvel espace qui ne doit rien à la perspective. Mais ces mêmes cimaises mettent aussi en valeur les tonalités claires, comme par exemple l'infini du paysage marin de l'évasion de Rochefort. C'est un tableau où on voit presque uniquement la mer, et cette fois-ci il n'y a plus de perspective, il y a toujours ce nouvel espace sur lequel a beaucoup travaillé Pierre Schneider, qu'il appelle l'espace de l'infini, avec sur cette mer un tout petit bateau qui est celui de Rochefort, et puis à l'opposé, les mêmes tonalités claires, font apparaître, toujours pour rester sur Manet, la perspective, quand Manet en a besoin, et en particulier la perspective du déjeuner sur l'herbe. Donc, ce même éclairage, ces mêmes teintes, à la fois renforcent le noir, mais aussi sont très importantes pour les palettes claires qui triomphent chez les impressionnistes. En plus du triomphe de Manet, on assiste donc au triomphe de Claude Monet, avec l'étalement des nages blanches dans son déjeuner sur l'herbe, le rouge des coquelicots qui joue avec le modelé du paysage, sont des tableaux qu'on connaît, qu'on a beaucoup vus, mais qu'on revoit. Et puis, de temps en temps, au milieu des coquelicots, les chapeaux de la femme et de l'enfant sous la fixité de ce ciel pommelé. Polyphonie aussi des verrières des gares, et puis le long cheminement qu'a connu Monet le long de la Seine, en allant à Argenteuil, en vivant à Vétheuil et en se terminant à Giverny, cette fois-ci s'enfermant dans l'univers très clos des nymphéas, univers qui se suffit à lui-même. La même lumière claire éclaire aussi les autres impressionnistes. Renoir paraît merveilleux, avec quelque chose de plus physique, avec, par exemple, dans le bal du Moulin Rouge, la robe blanche, le canotier, les lampadaires et les taches des visages, avec, terminant une salle d'une façon admirable, en duo, d'un côté la danse de la campagne et de l'autre le danse à la ville, qui termine admirablement cette nouvelle salle. Donc, musée transformé, non seulement pour la peinture, mais pour la sculpture. Et par exemple, Degas, le cru, le dur de la petite danseuse, qui est au centre d'une salle, la donne mine, la rénove et éclaire les tableaux de Degas qui l'entourent. Donc, admirable transformation, les impressionnistes, après 20 ans, ont enfin trouvé un nouvel écrin. Cette nouvelle transformation profite aussi à la sculpture, et en particulier celle de Degas, la petite danseuse dont on voit là clairement le côté cru, le côté dur, le côté gymnastique, le côté boulot-boulot, elle est au centre d'une salle et elle éclaire parfaitement toute une partie de cette salle qui est consacrée à Degas. Donc, bonheur immense, renouveau d'un musée, redécouverte pour nous de la vue des impressionnistes qu'on faisait semblant de connaître. Et cependant, je dois dire que cette joie, trois remarques la pondèrent un tout petit peu, modulent notre enthousiasme, et il y a trois points qui, à mon avis, s'accordent mal au lieu. C'est d'une part les modalités de l'accrochage, d'autre part l'excès des tableaux, et puis la permanente présence de Gaëlle Olanti que l'actuelle présentation n'a malheureusement pu faire oublier. L'accrochage, eh bien son ordre, il est difficile de savoir à quoi il correspond. Bon, bien évidemment, il correspond à l'ordre chronologique, mais souvent, cet ordre chronologique se fait aux dépens de la valeur esthétique. Les choses commencent mal. À l'entrée de cette galerie, une grande toile de Friant, un peintre dont je ne connaissais pas le nom, correspond ni à l'inspiration, le tableau s'appelle La Toussaint, ni aux couleurs, un noir qui n'est pas celui de Manet et qui n'est pas celui de Villemotte. Donc, un tableau très singulier, on se demande ce qu'il fait là. Je veux bien que la toile a été peinte à la même époque que les impressionnistes, elle date de 1888, mais ici, le respect de la chronologie devient presque une provocation, à mon avis, et pour Manet et pour Villemotte. Deuxième élément, pourquoi séparer les toiles des mêmes artistes ? Manet règne, mais Manet est partout. Et Manet n'est pas groupé. Et après l'exposition que nous avons connue, on aurait souhaité qu'il soit regroupé. Eh bien, ce n'est pas le cas. L'Olympia et le FIF sont au rez-de-chaussée. Le Déjeuner sur l'herbe, lui, est au cinquième étage. Mais même dans ce cinquième étage, les Manets sont dispersés. Alors, les fleurs sont un peu partout. Elles sont espacées. Pourquoi n'a pas-t-on regroupé ce qui était au rez-de-chaussée et ce qui est au cinquième ? Pourquoi l'Olympia est séparé de cinq étages du Déjeuner sur l'herbe ? Je crois que ça enlève un peu de force à toute la démonstration royale que nous apporte Manet dans cette salle. Et puis, la qualité des œuvres est telle que celles qui sont moins abouties, eh bien, résistent pas très bien. Je prends un exemple d'un bon peintre qui était l'ami des impressionnistes, qui était lui-même un impressionniste, mais qui était un modeste, qui s'appelait Caillebotte. Bon, je conçois qu'on place les raboteurs du parquet dans la grande galerie. Caillebotte a découvert une certaine perspective, à la fois dans cette toile, à la fois en haut de certaines maisons et sur la place de l'Europe qui domine la gare Saint-Lazare. Mais quand ces tableaux, et en particulier ces paysages, voisinent avec ceux de Monet, eh bien, Caillebotte en prend un coup, je trouve. Et on se demande, mais on n'a pas bien vu au début les étiquettes, on croit qu'il s'agit toujours de Monet, eh bien c'est plus tout à fait le même Monet. Et je pense que Caillebotte, qui adorait les impressionnistes, qui leur a rendu service, qui leur a donné de l'argent, qui les a beaucoup aidés, était un modeste. Il ne se considérait pas, lui, comme un très bon peintre. Il considérait comme un grand ami des impressionnistes. Et je crois que là, si vous voulez, l'accrochage n'est pas tout à fait à la hauteur des toiles. Même chose pour un tableau qui figure maintenant au Louvre, qui s'appelle le Cercle de la rue Royale, qui est peint à la même époque, 1868, par un peintre qu'on connaissait mal, qui s'appelle Tissot. Et lui est au rez-de-chaussée. Mais je trouve qu'on en fait un numéro qui ne mérite peut-être pas tout à fait. C'est la représentation dans l'hôtel Gabriel, place de la Concorde, des gens snobs de Paris. Alors, il y avait le marquis de Miramont, Ganesh, Charles Haas, et finalement le tableau va tomber puisqu'il a été tiré au sort, ses peintres avaient payé le peintre au baron Hautingue. Mais réellement, si on voulait montrer les gens snobs de Paris, ils sont montrés. Le tableau de Jacques-Émile Blanche de Proust est admirable, parce que Proust, sur ce tableau, paraît un grand écrivain, mais on voit qu'il appartient à un monde, qui est aussi le grand monde. Et je me demande si un tel tableau a vraiment sa place à Orsay. Et ce qui me gêne encore, c'est, je trouve, mais là je suis sans doute un peu sévère, je n'aime pas le travail de Ghirlandi. Alors ce travail apparaît de moins en moins. Il faut bien dire que la grande galerie, pratiquement, n'a plus de tableaux. Mais quand même, les constructions de Madame Ghirlandi semblent dissimuler, enfermer, enserrer la naissance des piliers. Et je me demande pourquoi maintenant qu'il y a une rénovation, on ne reprend pas le plan initial d'Yves Boiret où on laissait monter les piliers, encore que, vous le savez, l'architecte d'Orsay préférait la pierre à l'acier. Et c'est la raison pour laquelle toute la façade est en pierre, mais l'architecte, lui, n'aimait pas tellement l'acier. Et puis, je trouve qu'il y a un peu trop de Cabanel, un peu trop de Chassériau, un peu trop de Jérôme, qui a quand même eu droit à une exposition, c'est quand même beaucoup, un peu trop de Bouguereau. Autrement dit, que pour respecter l'histoire de la peinture, on oublie que ces peintres se battaient, que Manet et Monet étaient quand même des gens que ces académiques avaient rejetés. Eh bien, ils sont là, assez triomphants. Je ne suis pas sûr que pour les gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de la peinture, ils soient capables en permanence, souvent, de faire la différence. Je reprends l'exemple du Cercle de la rue Royale. Il a été peint en 1868. 1868, c'est quand même l'année où Manet peint le balcon. C'est l'année où il peint la lecture avec cet accordé blanc. Et c'est l'année où il peint aussi quelqu'un qui n'est pas noble, mais qui appartient au même milieu que celui du Cercle de la rue Royale, Théodore Duret. Admirable tableau, Duret à l'élégance des ducs et des marquis. Et puis en plus d'être un beau portrait avec une perspective qui est assez originale, eh bien Manet a replacé pour équilibrer le personnage une petite table avec une merveilleuse nature morte, exceptionnelle, et on retrouve les grands thèmes de Manet, c'est-à-dire l'eau, le citron. Admirable toile, et ça a été peint la même année que le Cercle de la rue Royale. Alors, je crois qu'il ne faut pas exagérer, je crois qu'il ne faut pas trop jouer les enfants gâtés. L'accrochage perdra un jour son ordre chronologique, et ses tableaux sont sans doute mieux individualisés. Les mauvaises toiles finiront peut-être par être oubliées et j'espère qu'un jour, cette grande verrière, qui a quand même le talent des verrières des gares, retrouvera son unité, en particulier le départ des piliers, même si Victor Laloux, encore une fois, préfère la pierre à l'acier et au verre. Malgré tout ça, le nouveau Orsay est admirable. Il faut bien le dire, admirable. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, il faut y aller, il faut venir, il faut revenir, il faut redécouvrir. On redécouvre les peintres et on redécouvre ce qui fait la différence entre Manet et Monet, sauf s'ils sont trop collés. S'ils sont trop collés, on ne comprend pas très bien. Je prends un tableau qui s'appelle La lecture. Eh bien, la lecture de Manet, c'est un jeu de blanc où il peint sa femme qui montre ses mains et qui écoute son fils qui est en train de lire quelque chose. Et elle est à côté d'un personnage de Renoir qui s'appelle La liseuse et qui respire toute la santé de Renoir. Donc, je ne suis pas sûr que l'un et l'autre, si vous voulez, s'associent tellement. Tout ça, c'est encore une fois des remarques d'enfants gâtés. Je répète le terme enfants gâtés. Le nouveau musée est admirable, il faut y aller, il faut y retourner, il faut redécouvrir ce qui a fait la gloire de la France, c'est-à-dire cette peinture entre Delacroix et Matisse et Picasso.